Bon, ça va être intéressant ce matin parce que tu nous places face à deux situations, être travailleur autonome ou encore être salarié.
Et avec la pandémie, beaucoup de gens ont changé d'emploi, ont eu des problèmes, ont voulu se lancer en affaires. Et la question qui revient souvent, c'est quoi le salaire que je devrais demander ou le revenu si je passe de salarié à travailleur autonome pour avoir la même réalité? Mais il y a plusieurs points. Le premier, c'est toujours, ce que je dis tout le temps, c'est le régime des rentes du Québec. Parce que peu de gens savent que lorsque tu deviens travailleur autonome, tu payes la part employeur et la part employé jusqu'à 61 600 $ et donc tu payes 5,9% de plus comme travailleur autonome. Donc déjà en partant, ça te prend ça. L'autre point, les assurances collectives. Souvent, le salarié chiale contre ses assurances collectives, médicaments, dentaires, lunettes, assurance vie, assurance invalidité, en disant « c'est pas juste, ça me coûte tellement cher par rapport aux autres ». Mais non, l'avantage collectif te donne un avantage, mais tu le décaisses, mais tu as une couverture. L'autre point, c'est le régime de retraite. Peu importe le régime de retraite que vous avez, soit un régime de cotisation déterminée, prestation déterminée, acquisition d'actions avec contribution de l'employeur, il y a toujours une valeur marchande. Il faut trouver la valeur, la juste valeur de cet avantage-là. L'autre point, c'est le risque de crédit. Parce que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, il faut que tu cours après tes clients, puis ça se peut qu'ils ne te payent pas, puis des fois, ils vont prendre 30 à 60 jours à te payer. Ça, il faut que tu finances ça. Ça coûte de l'argent. L'administration, la comptabilité. Si vous êtes travailleur autonome, c'est quelques milliers de dollars par année que ça coûte en comptabilité, en fiscalité, pour produire vos rapports administratifs. Et ça, vous n'avez pas, vous n'avez pas à le faire comme salarié. Et finalement, un point super important, c'est la quête de clients. Parce que faire ramasser des clients, rencontrer des clients, faire des soumissions, des estimations, c'est le bénévolat du travailleur autonome. Et ça, on n'en parle jamais. Et si vous arrivez chez votre banquier, il va vous demander 2 ans de revenus autonomes stables avant de vous prêter pour une maison, par exemple. Et l'autre point, c'est évidemment l'avancement, les autres facteurs, le bonheur, qui ne sont pas financiers. Mais au bout du compte, le travailleur autonome, ça, il prend un 30-40% de plus pour compenser les désavantages que le salarié peut avoir.
Fait que tu dis combien minimalement, là?
Moi, je dis 30, parce que j'aime ça dire 30, mais parce que la prime de risque doit être là. Parce que le régime de retraite, les avantages sociaux, le régime des rentes du Québec, si tu cumules tout ça, le bénévolat que tu vas faire, les coûts supplémentaires d'être en affaires, si tu ne vas pas chercher un 30% de plus,
okay,
tu risques de le payer quelque part.
Maintenant, on va parler encore de baseball et de finances.
Oui, je vais donner un outil au gouvernement, c'est le délai de récupération. Monsieur Brousseau-Pouliot, dans la presse, dit ce matin, dans le fond, là, les impôts générés par les joueurs avec la garde partagée sera à peu près de 4,25 millions au Québec, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tiens, on va parler d'un outil financier pour le gouvernement, le délai de récupération. Donc, M. Bronfman débarque, mettons qu'il demande 100 millions en avantages, c'est-à-dire valeur de terrain, épargne de taxes, peu importe. Et on dit combien de temps ça prendrait de récupérer cette valeur-là avec les impôts des joueurs. Ben, tu prends le capital que ça te coûte ou le coût de renonciation, par exemple, 100 millions, tu divises par 4,25 millions, qui est la fiscalité des impôts qui pourraient revenir, et ça donne 23,5 ans. Si tu te demandes 200 millions, c'est 45 ans. Si tu te demandes 500 millions, c'est 117,6 ans. En somme, plus le délai de récupération est long, moins ton projet est avantageux par rapport à d'autres projets parce qu'il y a un risque qui est ajouté. Et d'ailleurs, on peut ajouter à cette réflexion-là de dire, est-ce qu'il y a un autre projet plus rentable pour le même montant? Alors, le gouvernement a beaucoup d'outils dans son portefeuille pour dire au groupe de M. Bronfman non, ou peut-être, ou oui, ou non, merci. Et c'est ça qui est intéressant. Le délai de récupération, c'est un calcul très, très simple. Il ne tient pas compte d'actualisation des flux monétaires, mais en somme, il tient compte d'une affaire. C'est que plus il est long, plus c'est risqué. Alors, si M. Bronfman demande 100 millions de fonds publics en avantages non remboursables, on peut lui dire, ben nous, là, c'est 23 ans sans tenir compte de la valeur de l'argent dans le temps. Donc, c'est pas rentable. As-tu une meilleure offre pour nous? Mais pour l'instant, évidemment, on ne nous offre rien, on nous demande...
OK, mais tu es en train de me dire que c'est une formule comptable pour dire non?
Ben, j'aime ça, Paul.
Non, mais c'est
que tu as un délai de récupération. C'est-à-dire, je te donne un exemple à part. Si, par exemple, tu pars une nouvelle technologie, puis ton délai de récupération, il est 5 ans. Ça veut dire que, par rapport à un autre projet, ton délai de récupération, il est 10 ans. Ça veut dire qu'il y a moins de risques, parce que plus ton délai de récupération est court, plus ça veut dire que tu vas récupérer tes flux monétaires rapidement, et moins il y aura l'impact des changements sociaux, des changements technologiques, des changements dans l'environnement externe qui pourront influencer la rentabilité de ton projet. Donc, tu sais, faire un projet où tu nous demandes de l'argent à dire qu'il y a des retombées pour Montréal, puis de l'impôt des joueurs. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut le calculer puis dire « Hey, notre délai de récupération est de 47 ans. On va laisser faire. »
Merci.
Voilà.
Salut.
Salut.
7h21.